Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Margot Le Ridon, Monsieur Hélène Lefrançois, Bertille Bourdon, Rosalie Suc, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Jacques Hubert. Allez, suite de notre série consacrée au sport comme arme de séduction massive dans les relations internationales, après avoir évoqué hier la diplomatie sportive des pays du Golfe, et avant d'aborder demain le cas de la France et jeudi celui de la Russie, tournons-nous aujourd'hui du côté de la Turquie et tentons d'y analyser le rôle très politique du foot. Le foot comme outil du nationalisme et ferment de la contestation, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Recep Tayyip Erdoğan, zor position, Yıldırım Demirören hücuma çıktı, kaptırdı Mehmet Hoca.
Quand le stade a été inauguré, notre président de la République a porté ce maillot. À l'époque, il était candidat pour devenir le 12e président de la République. Donc on lui a donné le numéro 12. Depuis ce jour, nous ne donnons ce numéro à aucun autre joueur. Et ça, jusqu'à la fin des temps.
Şimdi Recep Tayyip Erdoğan vuruşu, 3-3.
Ici, on voit bien l'attitude de la fédération. Les kémalistes, ceux qui critiquent le gouvernement, reçoivent des sanctions très lourdes, très sévères. Mais ceux qui sont à droite, comme les islamistes, qui ne remettent pas en cause le gouvernement, s'en sortent avec des petites peines, comme des mises à pied de quelques jours.
Pour le président Erdoğan, qui aime à rappeler son passé de footballeur semi-professionnel, le ballon rond est un important outil de légitimation. À travers son soutien appuyé à l'équipe nationale, comme à des clubs locaux, le dirigeant touche l'intérieur du pays. En retour, l'adhésion des footballeurs au régime semble sans faille, comme l'a récemment illustré le salut militaire des joueurs turcs à la fin de leur match contre la France. Mais tout en jouant à plein son rôle de ciment du nationalisme, le monde du foot turc est également traversé de mouvements de contestation. C'est dans les rangs des supporters, davantage que dans ceux des joueurs, que cette dimension apparaît. Habitués qu'ils sont aux confrontations avec les forces de l'ordre, ces supporters ont en effet développé une culture d'opposition à l'autorité qui leur a conféré un rôle central dans le mouvement d'occupation du parc Gezi à Istanbul en 2013. Aujourd'hui, tous se savent surveillés, la contestation se fait nettement plus discrète, même si elle n'a pas complètement disparu. Que révèle le foot du nationalisme turc? Quels sont les liens concrets d'Erdoğan et de ses proches avec ce sport et avec les fédérations sportives en général? Et au-delà de sa dimension politique, le foot peut-il également être un outil diplomatique? 6 ans après le mouvement de Gezi et l'éphémère alliance d'Ultra Istanbul United, que reste-t-il de la culture d'opposition des clubs de supporters? Pour évoquer certaines de ces questions, nous avons invité ce matin Gökçe Tunçel. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin.
Bonjour.
Merci, vous êtes doctorante au sein du CESPRAC, le Centre d'études sociologiques et politiques Raymond Aron de l'EHESS, et vous êtes intéressé, vous, à ce mouvement Gezi auquel je faisais référence et à la place qu'y ont tenu les groupes de supporters. On en parlera dans cette émission. Avec nous également en plateau, Jean-Baptiste Guégan. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous également. Vous êtes, vous, enseignant géopolitique du sport. Vous avez signé plusieurs ouvrages sur cette question. Récemment, une histoire populaire du PSG, mais aussi géopolitique du sport, une autre explication du monde, ou encore les dessous du football en Russie. Tout ça chez Bréal pour les deux derniers et chez Hugo Sport pour l'histoire populaire du PSG. Avec nous également par téléphone, Jean-François Polo. Bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous, Jean-François Polo. Vous êtes maître de conférence en sciences politiques à l'IEP de Rennes et un spécialiste des liens entre le sport et la politique en Turquie. Vous y allez très régulièrement. Vous êtes d'ailleurs chercheur associé à l'Institut français d'études anatoliennes d'Istanbul. Octobre dernier, je vais commencer avec vous, Jean-Baptiste Guégan. La Turquie rencontrait, vous vous en souvenez, l'équipe de France au Stade de France. Et pour fêter l'égalisation de leur équipe, les joueurs turcs ont effectué un salut militaire en soutien aux soldats engagés dans l'offensive armée fraîchement décidée par le président Erdoğan. L'épisode a été beaucoup commenté, pour pas dire carrément critiqué, en particulier ici en France, et y compris d'ailleurs par des responsables politiques en situation, notamment par exemple la ministre des Sports. L'UEFA a par ailleurs lancé une enquête disciplinaire. De son côté, Erdoğan, le président turc, n'a pas hésité à parler de discrimination, de campagne de lynchage même carrément. Mais c'est un événement qui laisse entrevoir cette dimension hautement politique que révèle le foot en Turquie. Alors évidemment, c'est pas une exception. Il y a beaucoup de pays où le foot, c'est de la politique, mais en Turquie, c'est le cas et c'est très fort.
Alors, il y a toujours eu en Turquie une forte adhésion entre le monde du football et le politique. Après, c'est aussi lié à un autre phénomène, hein, c'est que l'équipe nationale va représenter le pays, un véritable phénomène d'identification. Et systématiquement, c'est le seul endroit finalement où on va avoir, dans l'espace public et dans l'espace médiatique, à la fois le port du maillot, l'hymne national et finalement une sorte d'armée en crampons qui va représenter le pays. Et tout cet ensemble-là en fait finalement un endroit parfait pour le politique en campagne ou en exercice pour se mettre en scène. C'est exactement ce qu'on a vu ici, dans un contexte où théoriquement, le sport doit rester apolitique. Or, on a vu exactement l'inverse.
Gökçe Tunçel, d'ailleurs, les footballeurs n'ont pas été les seuls à faire ce salut militaire. Il y a une boxeuse qui, à la fin de son match, a fait également un salut militaire. Je crois qu'il y a également un gymnaste qui l'a fait également. Donc, on voit que ce n'est pas une spécificité du monde du football. Mais à qui ce salut est-il adressé, selon vous? Aux soldats turcs ou à son chef, au chef des armées, c'est-à-dire Erdogan? Gökçe Tunçel.
Alors, moi, je pense que le sujet du nationalisme dans les matchs de foot, notamment quand les matchs de foot ont lieu à l'Europe, évidemment que les footballeurs, les joueurs et les supporters vont utiliser les symboles du nationalisme déjà pour provoquer l'adversaire, pour faire le spectaculaire. Et en plus de ça, on sait aussi que les Turcs qui vivent en France et qui ont la double nationalité et qui se déplacent dans le stade pour voir leur équipe nationale, ils vont avoir des positions plus nationalistes que d'habitude. Donc du coup voilà, il y a la question de nationalisme, c'est une question assez complexe, et je pense que comme le nationalisme en Turquie est intimement lié à l'armée, c'est-à-dire que ça va être l'armée qui va être le gardien du kémalisme, du nationalisme du pays, et les citoyens par exemple, on sait que les kémalistes surtout ils n'hésitent pas faire l'appel à l'armée pour dire notre État est en danger, etc., venez nous sauver, etc. Donc du coup, moi, je pense que c'est plus l'armée et moins Erdogan.
Oui, parce que l'armée a évidemment une place à part dans l'histoire de la Turquie. Depuis l'avènement de la République turque en 1923, l'armée, c'est celle qui défend les valeurs de la Turquie. Jean-François Polo, votre regard sur cet événement, tout à l'heure, Jean-Baptiste Guégan a parlé d'armée en crampons. Me demandais au fond à qui est-ce qu'on adressait ce salut militaire. Est-ce que c'est à Erdogan? Est-ce que c'est à ses soldats? Qu'est-ce que vous comprenez, vous? Et puis peut-être une question aussi pour pousser un peu la chose, c'est jusqu'où est-ce que ce geste est-il guidé, suggéré par le pouvoir? Jean-François Polo.
Oui, alors moi je pense que ça s'adresse aux forces engagées dans une lutte qui est présentée comme une lutte pour la paix, faut le rappeler, qui est perçue comme une cause consensuelle. L'opération et l'intervention au nord de la Syrie, ça s'appelle source de paix, elle est justifiée par une lutte contre le terrorisme et contre lequel le sentiment national est très largement réuni. À part le parti kurde, tous les partis présents à l'Assemblée nationale ont voté l'autorisation à l'armée turque de s'engager sur le territoire syrien. Donc je pense que ça s'adresse à la fois en effet aux forces militaires engagées sur le terrain, ça s'adresse aussi à la nation turque et aux Turcs d'Europe, mais aussi aux Turcs de la Turquie, et ce geste montre que on appartient à une même communauté nationale qui doit se défendre contre les agressions extérieures et intérieures, contre le terrorisme. Et à mon sens, c'est un petit peu ce que signifie ce geste. Donc il est, je dirais, plus nationalisme, c'est le nationalisme qui est une forme de méta-idéologie qui est très puissante et très répandue dans tout l'éventail politique, à part peut-être le mouvement kurde.
Et est-ce qu'on peut aussi penser ce geste S'agissant du rapport à l'Occident et peut-être en particulier du rapport à l'Europe. En 2012, Jean-François Polo, vous aviez écrit un article intitulé « Enjeu politique du sport en Turquie, gagner l'Europe ?» point d'interrogation. Alors aujourd'hui, on sait bien que la perspective de l'intégration à l'Union européenne, évidemment, n'est plus d'actualité pour tout un tas de raisons, mais c'est pas le sujet ce matin. Mais comment est-ce que le foot a pu être utilisé par Ankara dans son ambition d'intégrer l'Union européenne ? Peut-être par le passé et peut-être même aujourd'hui, pour dire précisément son opposition, sa distinction vis-à-vis précisément d'une perspective que désormais on rejette de façon ostensible. Jean-François Polo.
Oui, alors je suis assez d'accord avec votre analyse. Je pense qu'il y a eu une rupture. Les années 2000, c'est les années où on croit au rapprochement avec l'Europe, voire à l'adhésion. Et le sport est un outil hein, qui sert à promouvoir la Turquie, son niveau de développement, la qualité de ses infrastructures, le dynamisme de sa société, sa richesse économique et les succès des équipes turques dans les compétitions internationales sont aussi mises en scène comme les formes de cette capacité à se surpasser et d'une légitimité à être membre de l'équipe européenne, on va dire. Hein. Lorsque Galatasaray gagne la Coupe UEFA, le président des Mirelles dit « voilà, maintenant nous sommes des Européens, on ne peut plus contester notre légitimité à candidater à l'Union européenne ». Alors bon, ce sont des formes, c'est des expressions un peu provocatrices, mais au-delà de ça, oui, la candidature à des grandes compétitions sportives au niveau européen, les victoires européennes sont célébrées comme les preuves que la Turquie a sa place dans l'Europe et que et qu'il faut l'accepter. Et c'est le moment où on croit encore à cet horizon européen. À partir des années 2010, la fin des années 2000, 2010, et puis surtout la grande crise qui commence, selon moi, à partir de 2013, Gezi, et puis les dénonciations sur les affaires de corruption, la guerre en Syrie, un petit peu une période où tout s'effondre dans le rêve européen. Les Turcs prennent acte que l'horizon européen s'éloigne de plus en plus, voire paraît improbable, et le football devient, comme cela a toujours été quand même, malgré tout, mais aussi l'occasion de provoquer l'Europe et d'affirmer une forme d'indépendance, d'autonomie, de dire nous aussi nous avons notre propre sphère d'intérêt, notre propre sphère d'influence, et si vous voulez pas de nous, n'oubliez pas que nous avons été aussi les conquérants de l'Europe, nous avons été aussi une grande puissance sur l'espace européen et que nous tenons à le rester, que vous le vouliez ou pas.
Jean-Baptiste Guégan, sur ce positionnement du football turc vis-à-vis de l'Occident et vis-à-vis peut-être en particulier de l'Europe.
Alors, si on prend l'exemple de Mesut Özil, par exemple, Erdogan en joue très habilement, c'est-à-dire que on est exactement dans cette perspective-là. On a un joueur qui donc a une double identité nationale, hein, qui est à la fois turc et allemand, qui va représenter cette diaspora turque à l'étranger en Europe, dans un contexte où les relations entre l'Allemagne et la Turquie sont compliquées, notamment par la crise migratoire. Le fait de voir ce joueur être mis en avant dans le cadre des contre-performances de l'équipe d'Allemagne est l'occasion pour Erdogan de s'en servir. Il s'en rapproche, il a été témoin à son mariage, il y a une vraie proximité entre les deux. Et cette mise en scène finalement de la relation amène Mesut Özil à avoir un discours vis-à-vis de l'Allemagne très compliqué, et finalement il y a une dénonciation finalement d'une sorte d'hypocrisie européenne au travers de ça.
Vous parliez de discours, vous parliez de Mesut Özil, Erdogan était le témoin du mariage, on y était.
Tabii evlilik uzun bir yolculuk. İyi günler var, kötü günler var. Mutluluklar paylaşıldıkça çoğalır.
Alors c'est un discours assez classique, hein. Ça dit en gros, bien sûr, le mariage est une longue aventure, il y a de bons et de mauvais jours, la joie est multipliée lorsqu'elle est partagée, etc. etc. J'allais dire un discours de mariage assez classique finalement. Gökçe Tunçel, qu'est-ce que ça nous dit justement cette proximité? Alors il y a probablement, peut-être, il n'y a pas de raison de douter, une amitié sincère entre Erdogan et ce joueur allemand d'origine turque. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une manière là, de la part d'Erdogan, d'utiliser son opposition à l'Union européenne, d'utiliser aussi peut-être Mesut Özil pour rappeler aussi à la diaspora son attachement à son pays d'origine. Enfin, comment est-ce que vous voyez les choses, Gökçe Tunçel?
Alors moi, je pense qu'il ne faut pas surtout oublier le noyau, enfin comment dire, un des éléments constitutifs du nationalisme turc, c'est les sentiments que les Turcs ressentent, les sentiments qu'ils ont envers l'Europe. Pourquoi ? Parce que Mustafa Kemal Atatürk, donc le fondateur de la République turque, qui a fondé la République en 1924, lui, il voulait, enfin en tout cas, il parlait de l'Europe, il voulait être comme l'Europe, il voulait donc faire progresser le pays vers la civilisation européenne, etc. Donc ce genre d'imaginaire est très très présent dans le nationalisme turc. Et donc, quand il s'agit des matchs de l'équipe nationale en Europe, il y a une double position et double sentiment, double émotion pour les supporters, mais aussi pour les citoyens turcs. C'est d'avoir une sorte de sentiment de vengeance, c'est-à-dire que vous nous a rejetés, etc. Mais de toute façon, nous on est meilleurs, et un sentiment d'envie d'appartenir et être et ressembler à l'Europe. Donc du coup, je pense que Erdogan, comme il a absolument besoin des votes des nationalistes, il faut se rappeler qu'il s'est rapproché du MHP, donc le parti nationaliste, pour justement pouvoir combler en fait les votes qu'il a perdus. Donc du coup, il joue vachement avec ses sentiments, avec cet héritage et cette culture du nationalisme dans le pays.
D'ailleurs, il peut aussi jouer dans le domaine du sport, puisque je ne sais pas si vous connaissez Naim Süleyman Oğlu. Évidemment, tout le monde le connaît en Turquie. C'est un immense champion haltérophile qui est maintenant disparu, mais qui avait été naturalisé turc, qui avait obtenu l'asile politique en Turquie, qui a eu des nombreuses médailles, des nombreux records, et il avait été justement candidat pour le MHP, donc parti d'extrême droite, et lorsqu'il est tombé malade, il est allé lui rendre visite sur son lit d'hôpital, et ça permet justement d'établir ce lien assez informel, précisément, entre l'AKP et le MHP. Jean-François Polo, au-delà de ce cas particulier que j'évoquais, de ce champion haltérophile, est-ce qu'il est classique, traditionnel, fréquent que des sportifs se reconvertissent dans la politique ? Est-ce qu'il y a des exemples particulièrement notables en la matière, Jean-François Polo ?
Alors, juste avant de vous répondre, pour revenir sur l'histoire du mariage et du témoin... Ouais.
On n'y était pas, je précise.
Pardon ?
Je dis on n'y était pas, je précise, c'était pour rire, hein, Jean-François Polo.
Oui. Non, c'est juste pour rappeler que Erdogan est un stratège très pragmatique, et que pour le mariage de sa fille, il a convié le Premier ministre de l'époque, Davutoğlu, pour être le témoin de mariage de sa fille. Et c'est une manière aussi de construire des liens de loyauté, ce qui n'a pas finalement empêché Davutoğlu de faire scission et puis aujourd'hui de créer son propre parti politique. Mais voilà, c'est aussi une stratégie, une attitude pour garder le lien, maintenir cette proximité et faire à croire qu'il est qu'il est un personnage admiré, fidèle et consensuel. Pour revenir sur les joueurs qui se reconvertissent dans des carrières politiques, mais il y en a un qui est une figure, mais là aussi qui est aujourd'hui dissidente, c'est Hasan Şükür, l'ancien avant centre de Galatasaray, qui lui s'est rapproché du pouvoir parce qu'il était proche de la confrérie güleniste. Et qu'il a...
Rappelons, Jean-François Polo, pardon de vous couper, rappelons qui est Fethullah Gülen pour les auditeurs. Hein.
Donc Fethullah Gülen, c'est un théologien turc qui est aujourd'hui réfugié aux États-Unis et qui a été un acteur important parce que les membres de sa confrérie qui opère dans une semi-clandestinité a pu infiltrer... la haute fonction publique, notamment dans la police, la justice, la haute administration, et a servi d'appui à l'AKP lorsque Erdogan a été élu pour se faire sa place dans une administration où les kémalistes avaient, on va dire, l'essentiel du pouvoir administratif.
Avant de devenir l'ennemi public numéro un de Erdogan.
Voilà, avant de devenir l'ennemi public numéro un d'Erdogan à partir de 2012-2013.
Et alors la conséquence pour Hakan Şükür en particulier, que vous évoquez ?
La conséquence pour Hakan Şükür, c'est que ses avoirs ont été saisis, ses
Alors voilà, Jean-François Polo, c'est les joies du direct. On a perdu la liaison, mais on va la retrouver. Jean-Baptiste Guégan, c'est vrai que c'est un exemple fameux qui est connu à Kanchoukour, qui avait été l'un des héros d'ailleurs de la campagne turque lors du mondial de 2002, où ils étaient arrivés troisième de la compétition. Il s'est engagé auprès de l'AKP et finalement, à cause de ses liens avec le réseau guléniste, il a fini en dissidence, à tel point d'ailleurs qu'il s'est exilé du côté des États-Unis et qu'aujourd'hui, d'ailleurs, il a donné récemment une interview aux Parisiens. Je ne sais pas si vous l'avez
c'est
entendu.
Ça, oui,
il s'est retrouvé.
Il est chauffeur Uber. Après avoir ouvert un restaurant, avoir été embêté par les services secrets turcs au point d'avoir été protégé par le FBI. On est quand même dans une logique qui est assez proche de celle qu'a vécu Enes Kanter, l'ancien joueur des Knicks, qui est aujourd'hui aux Sixers. C'est-à-dire que quand vous représentez la secte Gulen, en tout cas, que pour l'AKP, vous êtes un adversaire, même si vous avez été un ancien allié, vous commencez à avoir des problèmes. Si on se souvient d'Enes Kanter, par exemple, son père a été obligé de le renier pour ne pas aller en prison. Il y est quand même allé. Enes Kanter a été privé de passeport sur la question. Il s'est encore mis en scène sur les réseaux sociaux pour ça. Et Akansukur a quasiment tout perdu. Alors que c'était quelqu'un qui représentait la Turquie qui gagne à l'étranger et qui faisait partie des 15 meilleurs joueurs du monde à son époque.
Alors on a retrouvé a priori Jean-François Polo, on va pouvoir vous laisser poursuivre et puis ensuite je passerai la parole à Gökçe Tunçel. Jean-François Polo.
Oui, alors j'ai repris la conversation en chemin, donc oui, en effet, il a été obligé de s'exiler et aujourd'hui à Kanchukur se trouve dans des conditions de survie assez compliqué. Après, on a vu aussi des joueurs, eux, épouser la cause du pouvoir et se faire les porte-parole de l'expression nationaliste. Et voilà, ils se trouvaient plutôt dans la posture du mainstream politique pour se dégager une place après la scène sportive dans la scène politique. Ouais.
Alors justement, Gökçe Tunçel, la question qui se pose désormais, c'est aussi peut-être de savoir quel est le niveau de mainmise aujourd'hui des autorités turques sur le sport, sur les instances sportives, sur les sportifs eux-mêmes. Très bien, mais jusqu'où est-ce que l'AKP et le président Erdogan ont un contrôle sur le monde du sport?
Alors moi, je dirais que le fait de contrôler le sport, c'est pas nouveau. Ça n'a pas commencé avec AKP. Mais bon, pour parler de ce que AKP et ce que Erdogan a fait dans ce champ footballistique, enfin du football, tout d'abord, on a vu une montée très importante de l'élite pro-gouvernementale dans les clubs provinciaux, parce qu'il faut rappeler également qu'il y a trois grands clubs qui sont tous à Istanbul, donc Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, et au final on entend peu en fait les autres clubs. Donc lui, ce qu'il a fait, donc il a investi avec les hommes d'affaires bien sûr à Konya, Bursa et il y a une autre ville qui m'échappe, des villes conservatrices et des villes qui lui soutiennent bien évidemment. Et cette montée a également affecté donc la Fédération de Turquie de football, donc TFF. Où maintenant les présidents sont des présidents pro-gouvernementaux en fait. Il a fait pression également après surtout le mouvement Gezi, où il a vu que les supporters de l'équipe de football Beşiktaş a participé au mouvement. Il a fait pression au président du club de Beşiktaş en disant que si tu critiques pas, si tu contrôles pas tes supporters, je vais pas finir la construction de ton stade.
On reviendra dans quelques minutes évidemment sur ce mouvement Gezi en particulier pour voir comment les supporters, quel rôle ils ont joué dans ce mouvement. Je vais vous faire réagir tout de suite, Jean-Baptiste Guégan, sur ce point-là. Mais d'abord, je vous propose d'écouter un extrait d'un témoignage. C'est un journaliste qui s'appelle Arif Kizil Yalin, qui est responsable de la rubrique sport du quotidien Cumhuriyet, qui est l'un des derniers quotidiens d'opposition et qui fait régulièrement l'objet de d'attaques de la part des autorités. Et voilà justement ce qu'il dit à propos des moyens de pression du gouvernement sur le foot turc en général.
Il y a aussi l'exemple de Galatasaray qui a subi des pressions après que Recep Erdogan a été sifflé dans le stade. Même chose pour les clubs de Fenerbahçe, Fethiye, İzmir, Antalya, Bursa. Le gouvernement a tous les moyens de pression pour ça, que ce soit par les impôts ou avec la rénovation des stades. Ce qu'il veut, c'est un public docile qui ne s'intéresse qu'au foot.
Voilà, extrait de ce documentaire Erdogan, le dieu du stade, qui avait été diffusé sur France 2 en 2017. On le voit, c'est très clair, il y a un certain nombre de leviers qui permettent Jean-Baptiste Guégan de maîtriser précisément ce monde-là. La question de la rénovation, par exemple, des stades étant l'un des leviers très puissants.
Bah, à partir du moment où les pouvoirs publics ont financé les infrastructures, vous avez déjà un premier levier. Ensuite, il y a la dimension politique, c'est-à-dire pour que les travaux soient débloqués, il faut que les politiques s'accordent avec ceux qui vont les mettre en œuvre. Vous savez qu'il y a des pratiques de corruption relativement généralisées dans tout ce qui est BTP en Turquie, hein, c'est pas le seul pays.
Oui, en Turquie comme ailleurs d'ailleurs.
Hein. Mais comme ailleurs, voilà. Donc il y a beaucoup de liens complexes, occultes, etc. Tu le rappelais justement... Très justement, les autorités du football turc ont plutôt tendance à être pro-gouvernementales et puis surtout à être sous influence, ce que l'UEFA normalement interdit, et normalement la fédération turque devrait être suspendue, mais faut croire que c'est pas assez visible. On a effectivement un football turc qui est sous influence et qui, dans beaucoup de cas, montre aussi sa faillite structurelle. On n'a plus un football turc aujourd'hui qui performe sur la scène européenne et ça fait partie des raisons. C'est-à-dire que cette politisation du football, elle a aussi un impact sur le terrain, puisque un club comme Galatasaray aujourd'hui est moins efficace, moins performant. À cause justement de toutes ces limites, et puis il suffit de parler du club de Başakşehir par exemple, qui est clairement le club de l'AKP, pour voir que il y a une véritable liaison, un véritable lien entre la pratique du football professionnel et l'usage que voudrait en faire, en tout cas, Erdogan.
Ouais, et si le foot turc est dans cet état-là, d'un point de vue sportif, c'est aussi une conséquence de ces mouvements de contestation qui ont eu lieu il y a quelques années, notamment au moment des grandes contestations autour du parc Gezi. C'était en 2013. Je propose d'écouter un petit témoignage de personnes qui justement étaient sur place. Et puis ensuite, on va évoquer justement la place de ces supporters dans ces manifestations.
Ils finiront par entrer dans le parc Gezi. Le gouverneur dit le contraire, puis le premier ministre dit « Nous leur donnons 24 heures, nous allons leur rendre la monnaie de leur pièce. Ce sont des menaces, je pense qu'ils mentent, ils entreront ici pour nous attaquer. Ils l'ont fait l'autre jour, même s'ils avaient dit qu'ils ne le feraient pas. » D'abord, si le parc Gezi doit être évacué, le gouvernement et la police devraient être les premiers à partir. Quant au référendum, à qui le premier ministre s'adresse-t-il? À nous? À un chanteur populaire? À qui? Il veut parler à des gens qui ne sont pas du tout concernés par tout ça.
Voilà, donc lors de ces grandes manifestations de Gezi qui avaient éclaté autour d'un projet de destruction d'un parc, mais qui en réalité avait cristallisé tout un tas de causes différentes qui allaient de l'écologie à la cause kurde, en passant par la cause féministe ou les droits LGBT, et bien des supporters de foot s'étaient assez rapidement mêlés à ces mobilisations. C'est un sujet sur lequel vous êtes intéressé tout particulièrement, Gökçe Tunçel. Comment comprendre ça? Comment s'illustrer l'engagement justement de ces supporters dans la contestation? Et puis il y a un phénomène très intéressant sur lequel il va falloir qu'on se penche, c'est qu'il se trouve que traditionnellement, vous avez dit, il y a trois clubs à Istanbul et les rivalités sont extrêmement fortes et il est très courant notamment qu'il y ait des terribles bagarres entre les supporters de ces trois clubs-là. Or précisément pour ces contestations, ils ont fait front ensemble. Il va falloir comprendre pourquoi. Gökçe Tunçel.
J'ai oublié de préciser un petit point qui est tout à fait important, je pense, dans le contrôle des stades. Et donc, ce sujet-là va revenir, en fait, quand on va un peu regarder ce qui se passait après Gezi. Notamment en 2014, donc, dans le contexte après Gezi, il y a eu Paso League. C'est une carte de crédit, en fait, que tous les supporters doivent l'avoir. Et c'est un système de fichage extrêmement performant, donc qui a été mis en place uniquement pour les supporters qui ont contesté justement dans le mouvement Gezi. Donc comment comprendre leur engagement dans ce mouvement? Bon, d'abord on parle du cœur d'Istanbul, donc Beyoğlu, le parc Gezi, c'est dans le cœur de Beyoğlu. Et Beşiktaş, le quartier où est né donc le groupe de supporters de l'équipe de Beşiktaş qui s'appelle Çarşı, qui s'appelle le Bazar. Donc Çarşı, c'est un de nom de ce quartier, en fait, où il n'y a pas de voiture, etc. Bon, donc eux, ils sont ils étaient dans ce quartier-là et ils ont entendu donc qu'il y avait une occupation. Ils ont entendu également que les forces de l'ordre attaquaient en fait une poignée des militants écologistes en notamment brûlant leurs tentes, etc. Et comme ce groupe de supporters, je ne vais pas dire qu'il est politique, mais il a une passé contestataire et une imaginaire contestataire assez fort. Donc, ce qui explique comment et avec aisance ils ont réactivé en fait ce passé contestataire et
ouais. Et je vous en prie.
Et décider de rejoindre le mouvement pour protéger ces manifestants.
Il est fait de quoi cet imaginaire? Est-ce qu'il y a des exemples de luttes un peu saillantes autour desquelles se sont retrouvés justement ces supporters?
Cet imaginaire contestataire, pour le mouvement Gezi ou...
Pour le fameux groupe en particulier, alors moi je le prononce très mal, Charche.
Charche, ouais.
Voilà, pour ce groupe en particulier, qui est un groupe très spécial dans le paysage des supporters turcs.
Mm. Ouais, alors pour faire le petit historique, si vous me permettez...
On aime toujours les perspectives historiques, allez-y.
En 1990, Charche, il avait toute la capacité de devenir, si vous voulez, financière, mais aussi en termes de nombre de personnes, un groupe qui pouvait contrer en fait la montée du nationalisme dans les stades, parce que en 1993, par exemple, Güven Sazak, qui était un ancien militant de MHP, a été élu président du club de Fenerbahçe. Donc c'était une période extrêmement importante pour la montée du nationalisme. Donc, Çağdaş'ı, il a décidé, puisque début des années 1990, toujours, il portait des symboles de l'extrême gauche. Il chantait, il réadaptait les chants de l'extrême gauche pour les chanter dans le stade, etc. Mais petit à petit, le groupe devient très célèbre. Il y a d'autres supporters de d'autres tendances politiques qui le rejoignent, etc. Et Çağdaş'ı décide de ne plus porter ces symboles politiques pour ne pas créer des divisions dans son groupe en fait. Donc et puis surtout les fondateurs de ce groupe, ils vieillissent, hein, et ils ont leur famille, leurs enfants, etc. Donc du coup ils se calment un petit peu et ça devient en gros un groupe de supporters un peu général de l'équipe de Beşiktaş. Mais par contre, aux yeux du public, aux yeux d'autres supporters, mais aussi des gens qui aiment le foot, en fait, Çağdaş'ı représente le groupe parce que il a aussi une tradition d'ultra. Ultra, ça veut dire qu'il va défendre en fait ceux qui sont opprimés, l'injustice, etc. Et je peux donner des exemples, après si vous voulez.
Allez-y.
Par exemple, en 2011, il y a eu donc un tremblement de terre très important dans une ville à majorité kurde qui s'appelle Van. Et Çağdaş'ı, comme à cette époque-là, mais bon, toujours, il y avait une propagande très très importante, pour glorifier les soldats turcs et pour dire que ce sont que des terroristes en fait, les Kurdes. On a, par exemple, dans les médias, on a eu droit à des prises de parole comme même si ça se passe à Vannes, on est quand même triste. Ce genre de choses.
Oui.
Donc dans ce contexte particulier, Çağdaş'ı, pendant une match de foot, ils ont lancé leur écharpe, leur manteau dans l'enceinte du stade. Ils ont affiché une banderole où était marqué, par exemple, les enfants de Vannes ne doivent pas avoir froid. Et ils ont pris une position politique assez puissante. Parce qu'au final, ils se sont positionnés comme pro-mouvement kurde.
Mmh. Alors, ça peut être ça. Ça peut être aussi l'ouverture, par exemple, d'une centrale nucléaire. Enfin, des gros sujets qui font vraiment débat dans la société. Extrait d'un documentaire intitulé Istanbul United, précisément donc sur ce phénomène qui a vu une forme de solidarité nouvelle entre ces différents groupes de supporters. Jean-François Polo, ça fait un moment qu'on vous a pas entendu, donc je vais vous donner la parole et ensuite je repasserai la parole à Jean-Baptiste Guégan. Justement, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ces groupes de supporters traditionnellement rivaux se mettent ensemble pour défendre quand même une cause commune? Qu'est-ce que tout cela vous inspire, Jean-François Polo? Parce que on les pensait, ces supporters, assez apolitique. Alors, j'ai entendu Gökçe Tunçel qui nous disait qu'ils étaient aussi, en tout cas pour certains, d'extrême gauche. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on retrouve un certain nombre de codes, même vestimentaires, qui le rappellent, notamment le ad anarchiste qui revient très régulièrement dans la typographie du groupe. Mais enfin, Jean-François Polo, qu'est-ce que ça vous inspire? Et puis ensuite Jean-Baptiste Guégan.
Alors, moi, ce que cela m'inspire, c'est un peu une analogie avec le champ politique. Pour moi, ces clubs de supporters, c'est un peu des... Comme les partis politiques attrapent tout, c'est des clubs supporters attrapent tout. Mmh. C'est-à-dire qu'on va y trouver en effet des militants d'extrême gauche, des militants kémalistes, des militants ultranationalistes, voire pourquoi pas des groupes d'essence minoritaire ou des individus d'origine par exemple arménienne. Voilà, et tout le monde peut se retrouver dans cette dans le supporterisme de leur club qui suffit à fonder une espèce de, d'imaginaire. On a un collègue d'Anne Irak qui est Aix-en-Provence, collègue turc, qui lui parle de micro-nation pour décrire ces grands clubs d'Istanbul qui fondent leur appartenance sur des histoires, sur des matchs qui ont marqué les esprits, sur un imaginaire, une mise en scène de soi, et qui fondent les identités spécifiques de chacun des clubs, autour des couleurs, autour de personnalités, autour de matchs inoubliables, etc. Voilà, donc parmi l'ensemble de ces supporters, eh bien oui, on va trouver des militants opposés à Erdogan, opposés à la dérive autoritaire. Et au moment de Gezi, il y a eu une très forte émotion vu la violence, la virulence de la répression policière contre les écologistes qui s'étaient enchaînés autour des arbres. Mmh. Et suite à quoi, comme j'ai l'a évoqué, voilà, le mouvement quasiment spontané est né depuis les chercheux de Beşiktaş qui sont montés et qui ont été rejoints par les autres supporters des grands clubs d'Istanbul, bien sûr les supporters plutôt opposés à Erdogan et qui se sont retrouvés pour dénoncer la violence, l'arbitraire. Bon, moi je pense que tout ça a participé un petit peu à une image consensuelle d'une résistance collective de ces groupes unifiés dans la lutte contre l'autoritarisme et l'arbitraire. Moi, je pense que c'est largement
surinterprété.
Ça participe à une légende collective,
même si les légendes collectives sont importantes. Les imaginaires, les légendes collectives sont éminemment importantes pour construire des identités, bien sûr.
Absolument, et ça a des effets. Et en effet, les supporters de Tchercheux ont joué un rôle très important les premiers jours de la résistance, de l'affrontement avec les forces de police. Parce que c'est des supporters un peu turbulents qui ont l'habitude de s'affronter aux forces de l'ordre, l'habitude de se protéger des gaz lacrymogènes et des canons à eau, et qui ont su mettre en déroute. Là aussi, ce serait peut-être participer à souscrire à cette légende, mais en tout cas résister et jusqu'à ce que les forces de police décident de se retirer et d'accepter que la place soit occupée pendant 2 semaines.
Turbulents, vous êtes gentils, ils sont quand même carrément violents, disons les choses, comme d'autres d'ailleurs. Hein. Mmh. Jean-Baptiste Guégan. Non, un point, non.
Moi, ce que je vois, c'est que ce qui se passe en Turquie, finalement, on peut faire énormément de parallèles, par exemple avec les tribunes des stades en Égypte ou même au Moyen-Orient, voire à Marseille. C'est-à-dire qu'on a une politisation des stades. Le stade va être le lieu de la contestation, et puis on ne peut pas arrêter des gens dans un stade de 50, 60 000 places pour une raison très simple: on les identifie pas. C'est très compliqué. Faut être dans les stades anglais où tout est silencieux pour pouvoir entendre celui qui a proféré une insulte.
Même si on essaye, parce que Tonsel nous disait par exemple cette histoire de comment ça s'appelle, je l'ai noté, Passolig, qui permet justement d'avoir les informations sur chacun des individus qui va acheter.
Mais c'est le fantasme aussi de beaucoup de régimes autoritaires. On le voit par exemple en Russie, c'est-à-dire essayer de contrôler.
On le fait chez nous,
Ah mais complètement.
Si vous voulez acheter un billet dans un stade de foot de Ligue 1, il faut donner votre nom.
Et je pense que ça existait avant même. En Turquie.
La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, avec les moyens numériques, les supporters sont devenus le laboratoire de lois liberticides et de pratiques qui peuvent être extrêmement contestataires. Quand on voit par exemple les interdictions de déplacement en France, pour faire un parallèle avec une démocratie occidentale, il y a de vraies questions qui se posent. Le statut des supporters aujourd'hui face à la loi générale est souvent remis en cause. Et en grande partie, on leur reproche leur extrême violence. On leur reproche aussi leur capacité à se politiser, à avoir des discours. Et pourtant, là où je suis d'accord avec Jean-François Polo, c'est que quand on regarde les groupes de supporters, mais ça vaut en Turquie, ça vaut en France, ça vaut partout, il y a tout le panel politique qui est là. Quand vous regardez les tribunes du Parc des Princes, entre Auteuil et Boulogne, sur les 30 dernières années, vous avez tout l'éventail, et on a présenté par exemple la tribune Boulogne comme une tribune d'extrême droite, alors que ça concernait, quand on regarde les sociologues qui sont intéressés à la question, quelques dizaines de personnes sur une tribune de plusieurs milliers. Mmh. Et quand vous regardez Auteuil, avec, je pense au CUP par exemple, au collectif Ultra Paris, vous avez une vraie volonté de conscientiser une dimension sociale. Ils ont fait énormément par exemple de maraudes, et ils ont fait exactement ce qu'ont fait les supporters turcs. Le supporterisme aujourd'hui est une clé de lecture des sociétés, et finalement, leur politisation, mais aussi des failles des sociétés qui vont dénoncer. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, d'abord avec le football turc et le football en général en Europe.
On est avec vous, Jean-Baptiste Guégan, Gökçe Tunçel, également Jean-François Polo, par téléphone dans cette série consacrée au sport, le foot comme outil du nationalisme et ferment de la contestation. Vous parliez de l'Égypte, mais justement, on va en parler.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
D'un côté, une équipe nationale utilisée par le pouvoir pour se légitimer à l'intérieur et rayonner à l'extérieur. Et puis de l'autre, des groupes de supporters à l'avant-garde de la contestation. Et bien, comme en Turquie, le football revêt en Égypte une importante dimension politique. C'est ce qu'on va voir avec Suzanne Gibril. Bonjour.
Oui, bonjour.
Merci
bonjour
beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheuse en sciences politiques au Centre d'études de la vie politique, le CEVIPOL, et à l'Observatoire des mondes arabes et musulmans de l'Université libre de Bruxelles. Vous êtes une spécialiste du supporterisme en Égypte. Vous avez conduit de nombreux entretiens auprès de groupes de supporters. Il vient là de se passer, il y a quelques mois maintenant en Égypte, un événement très important puisque il y avait la Coupe d'Afrique des Nations et ça s'organisait précisément du côté de l'Égypte. Sauf que il y avait une spécificité à cet événement, c'est que on avait des tribunes qui étaient quasiment vides, en tout cas très parsemées. Pour quelle raison? Comment se fait-il que les supporters égyptiens n'étaient pas au rendez-vous alors qu'il s'agissait quand même pour le président Sissi de faire la démonstration d'une forme de retour à la stabilité et de donner une belle image de son pays? Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, c'est une question très simple avec une réponse extrêmement complexe.
On a un peu de temps pour y répondre.
Je vais essayer de faire au mieux.
On a un peu de temps, on va détailler.
Donc, comme vous l'avez dit, je pense que la première chose à faire est de faire une dissociation entre le supporterisme de l'équipe nationale et le supporterisme des équipes locales. Et c'est là que se trouve en fait toute la distinction. Je vais commencer par plutôt le supporterisme des équipes locales, parce que ça explique pourquoi les supporters n'étaient pas présents pendant cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc en fait, les supporters, un peu comme en Turquie, j'écoutais un petit peu hors ligne, mais donc un petit peu comme en Turquie, les supporters ont cet esprit turbulent, violent, peu importe comment vous voulez l'emprunter, eux se disent un petit peu plus turbulents, donc ils essayent d'être un petit peu en désaccord en fait avec la façon dont les choses se font de manière traditionnelle dans la société. Donc les supporters des équipes locales expriment leur supporterisme au sein du stade et expriment leur rejet de toute forme d'autorité. Et donc c'est pour ça qu'ils se trouvent en confrontation avec les forces de l'ordre et de ce fait-là avec le régime.
Comment ça s'était illustré en particulier, Suzanne Gibril, au moment de la révolution de 2011?
Cette opposition?
Oui, c'est-à-dire quel avait été l'engagement des supporters de foot dans la révolution de 2011 en Égypte?
Oui, c'est on dit souvent que les supporters étaient extrêmement politisés à ce moment-là, et qu'ils étaient, de pair avec la révolution et ses valeurs. Mais en vérité, donc de ce qui est ressorti en tout cas des entretiens que j'ai effectués, ce qui s'est passé, c'est que les supporters ont été appelés par les différents groupes qui se sont mobilisés pendant les événements de la révolution en soutien, étant donné leur expérience avec les forces de l'ordre et les confrontations.
Donc pour les protéger contre la police. D'une certaine manière.
Oui, ouais. d'une certaine manière, c'était pour les protéger contre la police. Alors, les supporters, en réponse à ça, ont exprimé la volonté de ne pas se mobiliser en tant que groupe, mais qu'ils laissaient la possibilité à chacun de leurs membres de pouvoir se mobiliser sur base individuelle. Bon, maintenant, c'est en tant que groupe qu'ils sont arrivés à la place Tahrir et qu'ils ont pris, en fait, les devants pour tout ce qui était... défense des manifestants et ils ont pris les devants dans tout ce qui était confrontation avec la police.
Oui, mais donc ça veut dire qu'il y avait une volonté de leur part d'apolitiser leur action, c'est-à-dire qu'en n'intervenant pas comme collectif, même si en réalité c'était bien de cela qu'il s'agissait, mais en n'intervenant pas comme collectif, on apolitise son geste. Vous dites qu'il y a quand même un événement qui va un peu changer la donne. Il est tragique, il se passe en février 2012, il y a 72 personnes qui trouvent la mort dans des affrontements lors d'un match qui oppose un club de Port Saïd et du Caire, et là il se passe quelque chose. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots cet événement? Est-ce que ça produit dans le comportement précisément de ces supporters?
Oui. Donc, c'était un match qui opposait la région qui est proche du canal de Suez avec un des clubs du Caire. C'est un des plus grands clubs du Caire, c'est le club de Al Ahli. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin du match, les portes avait été verrouillé du côté des supporters de Ahli, ce qui ne les a pas permis de sortir du stade. Et ce qui est apparu comme étant des supporters de l'équipe adverse ont traversé le stade pour attaquer les supporters de Ahli.
Quand vous dites apparu, c'est-à-dire
voilà, exactement.
Apparu comme des supporters de l'équipe adverse, ça veut dire que ça a été instrumentalisé par les autorités du moment?
Alors, donc, il s'est avéré par la suite, c'est ce que les supporters soutiennent en tout cas, que c'était une façon en fait pour le régime de se venger. Et donc, à ce moment-là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont payé des fauteurs de troubles pour s'habiller aux couleurs de l'équipe de Masri et pour attaquer ces supporters de Ahli. Ce qui s'est passé, c'est que 74 personnes ont été tuées. Par la suite, en fait, il y a eu une rupture dans l'implication des supporters dans la révolution, à savoir qu'à partir de ce moment-là, étant donné que leur groupe en tant que tel avait été attaqué, ils se sont mobilisés en groupe, peu importe quel club ils soutenaient. Donc, ils se sont vraiment mobilisés en tant que groupe ultra uni contre les forces de sécurité et le régime pour que les responsables soient jugés.
Donc là, on est en février 2012, donc a priori, les responsables étaient plutôt des personnes affidées à l'ancien président Hosni Moubarak. Je ne me trompe pas?
Non, c'est tout à fait.
D'accord. Si on avance un tout petit peu dans le temps, on a ensuite l'arrivée de Mohamed Morsi qui est élu président au suffrage universel. Il est ensuite renversé par un coup d'état militaire. Qu'est-ce qui se passe avec justement le retour de l'armée et d'Al-Sisi à la tête de l'État vis-à-vis de la posture que l'on a s'agissant des supporters de foot? Qu'est-ce que ça change finalement, cette arrivée, ce retour de l'armée pour les supporters?
Bon, alors les supporters participent à la révolution de 2013 aussi, mais là il y a une première rupture au sein des groupes de supporters. Il y a certains des membres des groupes de supporters qui sont aussi membres des jeunesses des frères musulmans. Et donc, il y a un schisme qui se fait au sein de ces groupes-là. Et puis, après, avec le retour de l'armée au pouvoir et la prise de pouvoir de Sisi, ce qui se passe, c'est que donc, il y a une répression qui se fait dans les premiers jours pour... ce qui est annoncé, en tout cas, par le régime, c'est que c'était pour assurer la stabilité et revenir à un état de calme. Et puis en 2014, fin 2014, les supporters sont considérés, enfin les groupes ultra sont considérés comme un groupe terroriste au même titre que les frères musulmans et donc sont systématiquement mis en prison et réprimés. À ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que les groupes de supporters vont être forcés à se retirer de l'œil, tout puissant et tout voyant du régime égyptien, et vont poursuivre en tout cas dans un premier temps leurs activités de façon clandestine. Et en 2018, à cause de la répression et du fait que la plupart de leurs leaders et de leurs membres sont en prison ou tués, à ce moment-là, ils décident de dissoudre leur groupe officiellement. Et donc, officiellement, les groupes ultra en Égypte n'existent plus. Maintenant, officieusement, évidemment...
Ils sont encore là. Ils sont évidemment encore très présents. Un dernier tour de table, on arrive au terme de cette émission. On va commencer par vous, Gökçe Tunçel. Là, le parallèle entre l'Égypte et la Turquie est évident. Gökçe Tunçel.
Ouais, tout à fait. Par contre, bon, il y a... moi, je constate une petite différence quand même avec donc les supporters d'Égypte, c'est que par exemple, bon, on a beaucoup parlé des supporters qui ont rejoint le mouvement pour défendre les protestants, mais à Istanbul en tout cas, pour les Çarşı, donc pour les supporters de l'équipe de football Beşiktaş, ils ont non seulement participé au mouvement pour défendre les jeunes, mais aussi pour défendre leur style de vie, parce qu'il faut pas oublier que juste avant le mouvement Gezi, ils étaient en train de fêter le match ou enfin boire, faire la fête, etc. comme ils font habituellement. Et là, Erdoğan qui était le premier ministre, si je me trompe pas à l'époque, c'était le premier ministre et qui était donc dans très très proche de quartier Beşiktaş et qui a ordonné aux policiers d'aller dans ce quartier et de les faire taire en fait. Et donc, du coup, il y a eu des confrontations entre les supporters et les forces de l'ordre.
Jean-François Polot, en quelques mots, le mot de la fin.
Bon, le mot de la fin, c'est que le sport en Turquie est en effet un formidable terrain d'observation de la mise en scène des identités politiques, parfois ethniques, et que des dirigeants sportifs aux supporters, en passant parfois par les joueurs, jusqu'aux acteurs politiques au plus haut placé, eh bien on joue de cet espace où on peut donner libre cours à des expressions parfois un peu intempestives et pour essayer de mobiliser, pour essayer de sensibiliser, pour essayer de rassembler. Et c'est en effet un puissant moteur de construction et de mobilisation.
Jean-Baptiste Guégan.
Moi, plus généralement, que ce soit la Turquie, l'Égypte ou encore l'Algérie récemment, pour mesurer finalement le niveau d'autoritarisme d'un État, il suffit de regarder comment les pouvoirs politiques se positionnent par rapport au stade, aux supporters et puis aux joueurs de foot. À partir du moment où vous avez finalement un certain niveau d'autoritarisme très très accentué, vous voyez qu'il y a une volonté de contrôler les stades, une volonté d'utiliser et d'instrumentaliser les joueurs et de surtout maîtriser la foule des supporters.
Un vrai laboratoire. Gelir sana belki de aynı ton gibi delik gibi bilin ama aynı fon kendini bilemez montofon monoton yaşar hep aynı don anlatırım ben derdimi yalnız ey bir meneyim aynı fon şimdi bu bana bir bakınız haydi muamele çekisi bilir asibi de Muhammed Ali gibi gelir asibi. Merci à tous nos invités, Suzanne Gibril qui est avec nous à l'instant par téléphone, Jean-Baptiste Guégan, Gökçe Tunçel, Jean-François Polot, je ne rappelle pas l'auteur de vos ouvrages, les références pardon, de vos ouvrages respectifs, mais on va les mettre en revanche sur la page de Culture Monde pour que les auditeurs puissent les retrouver. En tout cas, merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin. On poursuivra notre série consacrée au sport demain, 11h53, l'heure de retrouver Brice Couturier, le tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Merci d'être avec nous ce matin Brice. On ne parle plus seulement de polarisation. Dans certaines démocraties, l'électorat semble carrément exploser. Cela risque de rendre la charge de gouverner bien compliquée. Quelle est la responsabilité, Brice, des médias ?
Pour des raisons que je ne m'explique pas, nous avons assisté au cours des récentes décennies à une explosion épistémique. Différentes régions et différentes sous-cultures en Amérique voient à présent la réalité à travers des lentilles qui ne se superposent plus. On y donne aux événements des sens radicalement différents. C'est ce qu'écrivait récemment un des meilleurs éditorialistes des États-Unis, David Brooks, dans un article intitulé « The Media is Broken ». Et en effet, selon Brooks, les médias font face à une crise sans précédent. Jusqu'à une période relativement récente, ils s'adressaient à l'ensemble de la population. Et surtout, leurs récepteurs recevaient ces flux d'informations de manière relativement homogène. Les citoyens de nos démocraties partageaient, selon la métaphore de Brooks, les mêmes lentilles. Eh bien, tel n'est plus le cas. Les journalistes le constatent, parfois avec effarement, les faits qu'ils rapportent, parce qu'ils les ont établis, provoquent dans des fractions de l'opinion des effets radicalement contraires à ce qu'ils avaient pu imaginer. Et de citer cette forte réflexion du philosophe Aldous Huxley. L'expérience, ce n'est pas ce qui vous arrive, c'est ce que vous faites de ce qui vous arrive. Autrement dit, le sens que vous donnez à ce que vous apprenez. Les lentilles au travers desquelles vous percevez la réalité. Or, celles-ci sont de plus en plus conditionnées par le lieu même où vous vivez. Cela n'est pas réservé aux États-Unis. Le choix électoral correspond de plus en plus à la géographie. Partout, le clivage central tend à opposer dorénavant les habitants des métropoles bien desservies au laissé pour compte des petites villes et des territoires ruraux. Et David Brooks se livre à une étonnante introspection. Nous autres, journalistes influents, éditorialistes de renom, écrit-il, nous nous sommes rapprochés des lieux géographiques du pouvoir, ceux où sont prises les décisions. Washington, Londres, Paris. Or, en réalité, ces décisions politiques influent de moins en moins sur le comportement des électeurs. Nous devrions être plus attentifs, conclut-il, à la manière dont les choses sont perçues localement. Il est nécessaire que les médias soient plus divers, non seulement sur le plan idéologique, mais aussi culturellement, qu'ils se décentralisent. Sinon, la césure entre médias légitimes et réseaux sociaux risque de s'aggraver et la démocratie en pâtira. Alexandra Borchard, une chercheuse en journalisme à l'Institut de journalisme de Reuters à Oxford, fait un constat assez semblable. Elle aussi constate que, selon les médias que vous consultez, votre point de vue sur les événements politiques qui ont lieu dans votre pays variera énormément. Le nouvel environnement numérique multimédia, écrit-elle, a permis à tout un chacun de donner son opinion et nous avons d'abord pris cela pour une avancée de la démocratie. Mais la démocratie n'est pas la foire d'empoigne où chacun peut donner son avis sans rien y connaître ni avoir de compte à rendre en cas d'erreur. C'est un système de gouvernement dans lequel les peuples confient un exercice limité du pouvoir à des personnalités reconnues pour leur expérience afin qu'elles promeuvent leurs intérêts nationaux. Un système dans lequel les pouvoirs se limitent mutuellement en s'équilibrant. Eh bien, les nouveaux médias obéissent à une toute autre logique, celle du clic et de l'effet de masse. Ils peuvent aider à des mobilisations ponctuelles, mais ils ne permettent pas leur institutionnalisation. Et ils minent la confiance des gouvernés envers les institutions démocratiques. Les politiciens populistes étaient parfaitement en phase avec leur fonctionnement et ils se sont servis de ces réseaux sociaux pour accéder au pouvoir ici ou là. Un des effets pervers de ce système, note-t-elle, c'est que les personnalités les plus talentueuses commencent à déserter et les médias et la politique. Ils n'ont pas envie de devenir des cibles sur les réseaux sociaux où il y a bien trop de coups à prendre.
Alors Brice, quelle solution pratique à cette crise de défiance qui touche donc à la fois les médias et les institutions démocratiques?
Eh bien, Alexandra Borchardt, pour revenir à elle, plaide pour deux solutions pratiques. Primo, il faut ce qu'elle appelle un journalisme de solution, informé sur les changements possibles et positifs. Les jeunes en particulier, relève-t-elle, semblent lassés d'une tendance des médias à la négativité. Ceux-ci doivent en outre demeurer fidèles à leur vocation démocratique. Elle consiste à fournir aux électeurs une information fiable sur les problématiques urgentes. Enfin, il faut améliorer ce qu'elle appelle l'éducation aux médias. Afin de combattre la désinformation à l'ère du numérique, il faut équiper les utilisateurs d'Internet des capacités à distinguer l'information véritable de la rumeur ou de l'intox. Solution qui lui semble plus réaliste que de tenter d'imposer aux réseaux sociaux le respect de règles déontologiques bien difficiles à mettre en œuvre. Les démocraties du monde entier sont actuellement soumises à un stress test, écrit-elle, et nous autres journalistes avons la responsabilité de les aider à tenir bon.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et la Grande Table.